1 Pierre au chapitre 5. On va lire les versets 5 à 9. Vous rappelez-vous c'est quoi le titre? Je n'ai parlé. Savez-vous de quoi qu'on va parler? Les émotions. Il y a une personne qui écoutait pendant les annonces, c'est bien.
Jésus.
Ah! Ouais, c'est ça. OK, on va lire les versets 5 à 9. Donc, 1 Pierre 5, tout le monde est là. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main tout-puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est pas nécessairement un passage qui nous parle des émotions. On pourrait voir là, des passages, on va parler maintenant, on faisait une joke avec Jésus pleurant, mais il y a un passage où est-ce qu'on voit beaucoup d'émotions, mais il y a sous-entendu là-dedans, avec toute la question de s'humilier sous la main de Dieu, un adversaire, lui résister, puis tout ça, ça nous fait passer par une gamme d'émotions. Des fois, on est complètement dans le fond du baril, là, justement, parce que Satan nous décourage, il nous accuse. Puis là, il y a d'autres fois que, bang, on se pète le nez, puis on se pensait donc correct, puis le Seigneur nous humilie. Fait que, il y a beaucoup, il y a une gamme d'émotions, un bagage émotionnel qui est rempli là-dedans, qui est amené avec ça. Mais surtout, je veux qu'on voit que on est dans une guerre spirituelle, puis on a parlé des pensées la semaine dernière. Puis rappelez-vous, on a parlé de notre ennemi. Puis souvent, notre ennemi joue avec nos pensées parce qu'on arrive à croire des mensonges qui nous fait avaler. Et là, ça nous amène dans le pétrin. Bien, c'est un peu la même affaire avec les émotions. Les émotions nous viennent de la façon dont on pense. Donc, il y a un lien direct entre ce qu'on a vu la semaine passée, les pensées et les émotions. C'est pas mauvais d'avoir des émotions, OK? Le problème, j'espère que personne ne pense ça, parce qu'on a toutes des émotions. Le problème, c'est lorsqu'elles nous dirigent. Les émotions sont faites pour suivre, elles ne sont pas faites pour diriger. Et savez-vous que Dieu a des émotions? Dieu nous dit qu'il ressent de la jalousie. On peut attrister le Saint-Esprit. Jésus aurait été affligé par des situations. Justement, on parlait ce matin avec Jésus pleurant. C'est tout l'épisode avec Lazare et tout ça. Puis Jésus qui a pleuré sur Jérusalem. Donc nous étant faits à son image, nous sommes des êtres émotionnels. Ça fait partie de notre ADN. C'est notre constitution. On est des êtres avec des émotions. Et ça veut dire que, savez-vous quoi, on a des émotions, puis on ne peut pas tout le temps contrôler nos émotions. Des fois, les choses, ça nous saisit. Des fois, on se met à pleurer, ou des fois, on est tellement content, on se réjouit, puis, OK? Fait que, tu sais, c'est pas comme si on allume la télé, puis on éteint la télé. Tu sais, les émotions, c'est pas aussi simple que ça, puis là, on vient, là, t'as le choix pas être. Tu sais, puis 100%, c'est un très mauvais conseil à quelqu'un. T'as le choix pas être triste, voyons donc, alors viens-en. C'est-tu quoi, quand tu ressens quelque chose, justement, c'est plus fort que toi, puis ça vient te chercher. Puis te faire dire par quelqu'un, tu sais, c'est comme si ressens pas ça, puis c'est pas une très bonne idée, là, parce que de toute façon, c'est pas très édifiant, puis c'est pas réaliste non plus. Je veux dire, ça veut pas dire que la personne, elle va continuer, puis s'apitoyer, puis s'écraser dans ses émotions, mais d'aller dire, ben non, tu sais, c'est comme si, ben t'es là, t'es allé. C'est pas comme ça que ça marche. Mais, avec du temps, avec la patience, patience les uns avec les autres, patience avec nous-mêmes. Des fois, on n'est pas patient avec nous, on aimerait ça que ça change tout de suite, puis, OK? Avec du temps et de la patience, on peut choisir ce que nous croyons. Et ça va directement influencer la façon dont on se sent. On parlait de pensées, nos pensées sont dirigées par ce qu'on croit, on a vu ça la semaine passée. Fait que si on décide de croire la bonne affaire, nos pensées s'enlignent avec la parole de Dieu et ça va produire les émotions en ligne de compte. Ça suit tout. Il y a une suite logique dans ce qu'on voit. Donc, pour apprendre à gérer ce domaine-là de nos vies, les émotions, on va vouer le message comme étant un autre pas de plus vers notre chemin sur la victoire de notre vie en Jésus-Christ. Et donc, on va simplement voir trois choses importantes à connaître, mais aussi à croire par rapport à la gestion de nos émotions. La première chose qu'on doit savoir, c'est que nos émotions négatives sont un signal d'avertissement. Les émotions sont à notre âme ce que le ressenti de la douleur est à notre corps. Tu sais, on se fait mal, ah, tu sais, mais les émotions, c'est ça, mais pour notre être intérieur. Savez-vous que si vous allez chez le dentiste, vous avez une anesthésie, ben, je pense pour moi, tout le monde ici a été chez le dentiste en anesthésie. Et nous nous dit de ne pas manger, d'attendre 2 heures avant de manger. C'est pas parce que, ah, ben là, si tu manges, je sais pas. Non, c'est pour pas qu'on se blesse. Parce qu'on peut se manger une joue sans s'en rendre compte, la langue. Non, non, mais il y a des gens qui se blessent. Si c'est une anesthésie, puis tu manges, tu t'en rends pas compte, mais puis après ça, ça dégèle, puis tu t'es tout mordu à la langue, puis c'est. Puis ça peut paraître niaiseux, mais c'est parce qu'on n'a pas la sensation. OK? Puis donc, il y a un but à ce qu'on ait une sensation d'un joue dans l'angle. C'est pour pas, justement, quand on fait quelque chose aussi commun et répétitif que manger, bien, pour pas qu'on se blesse. Donc, on comprend que les nerfs sensitifs qui sont dans notre bouche sont là pour nous protéger, pour pas se faire du mal. Puis Dieu nous a donné la capacité de sentir la douleur pour nous protéger. Sans quoi, bien, on serait comme quasiment un amas de cicatrices ambulantes, là, imaginez-vous de quoi qu'on aurait de l'air. Tu sais, t'es fait mal au bras, frère, une chance que tu l'as enlevé, parce que t'avais rien senti, pour moi, ça aurait passé au travers du bras, parce qu'avec la brûlure que t'as, mais t'as pas dû rester longtemps à côté, ça a grillé chaude. Fait que t'as vu, ça l'a... Donc, c'est un avertissement, hé, enlève ton bras de là. Ben, les émotions négatives jouent le même rôle. Mais pour notre âme, parce que même si, tu sais, des fois, on pourrait se dire, ah, ça serait donc super si j'aurais pas de dépression, pas d'anxiété. Mais en fait, non, ça serait pas super, parce qu'on se blesserait pas à peu près. Parce qu'on continuerait sur une voie qui nous détruit. La dépression, l'anxiété, même la colère, vous allez voir, on va voir ça dans les émotions aujourd'hui, ça a un but, ça nous donne un message, c'est un avertissement. Un peu comme, j'avais déjà utilisé l'illustration, mais je vais la réutiliser, un tableau de bord. Quand on conduit une voiture, des fois, il y a des lumières qui allument. Le fameux « check engine ». Mais quand ça allume « check engine », ça veut dire quoi? Il faut qu'on aille voir sous le capot pour voir c'est quoi le problème. Mais quand on a des émotions de main qui nous sortent, c'est « Seigneur qui allume le Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est le « check engine » du Seigneur quand on a des émotions comme ça qui nous prennent. Et ignorer ces mauvaises émotions-là, c'est comme ignorer le signal sur le tableau de bord. Et, ben, c'est ça. Je peux mettre un scotch tape sur le check engine pour plus le voir. Mais je ne vais pas régler le problème. En fait, c'est un peu comme si j'essayais. Hier, on faisait des jeux avec les taupes. Là. Avez-vous déjà essayé d'enterrer une taupe? On va trouver un chemin. C'est une taupe, ça vit sous la terre. Fait que essayer de l'enterrer, c'est comme partie perdue. C'est peine perdue, là. Elle va trouver un chemin, ben, ça ne marchera pas. Puis aussi, je peux aussi vraiment prendre des grands mots, puis pogner un marteau, puis donner un coup de marteau dans mon tableau de bord. Ça, c'est un peu comme quand que, ah, ben, comment ça, je suis même, puis là, je me choque, puis c'est quoi? Ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est d'aller voir sous le capot. Autrement dit, l'avertissement, c'est de dire, Dieu veut te montrer quelque chose qui, dans ta vie, dans ton cœur, ne marche pas. C'est un avertissement. OK? Et bien sûr, la seule façon appropriée de répondre à des alertes comme ça qu'on pourrait voir dans nos vies avec le tableau de bord, c'est demander à Dieu, tu sais, nous des fois, on comprend même pas trop, tu sais, là je dis aller sous le capot, mais c'est quoi le mieux pour trouver le problème? Tu sais, on va voir un mécanicien, mais Dieu, il sonde les cœurs. Sonde-moi, oh Dieu, et connais tout mon cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer avec ça? Ça vient me chercher, puis ça, qu'est-ce que... Savez-vous, quand vous arrivez des affaires de main, c'est la meilleure chose à dire. Seigneur, là, j'ai un avertissement. Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Puis si dans l'humilité, on est prêt à recevoir ce que Dieu nous dit, puis à croire que Dieu, ça fait partie de son plan qui est dans notre vie, ça va être salutaire. Donc, on va voir, ah, c'est bien que je sois passé par là, parce que Dieu voulait me donner Il voulait me passer un message. OK? Donc, la meilleure façon de gérer nos émotions négatives, c'est de les voir, de les reconnaître comme étant des moyens de nous alerter, et écoutez bien, par rapport à ce qu'on croit. Parce que si ma croyance, si ce que je crois n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, OK? La façon que je vais me ressentir, ça ne sera pas en harmonie, ça ne sera pas un reflet de la réalité selon la parole de Dieu. Mettons, je me sens tout déprimé parce que je dis personne m'aime et tout ça. Savez-vous quoi? Je ne crois pas la vérité. C'est pas vrai que personne m'aime. De premièrement, de un, Dieu m'aime. Puis Dieu a mis des gens dans ma vie qui m'aiment. Mais tu sais, c'est là que tu te sens tout déprimé, pour au secours. Pis... Fait que voyez-vous, c'est ce que je crois qui a fait comment je me ressens. Donc, c'est ce que je crois qu'il faut qu'il soit corrigé pour corriger comment je me ressens. OK? Puis là, je dis, ah ben non, là, let's go, un peu de pep, pis ça. Je fais comme mettre un plaster, mais j'ai pas réglé la source du problème. Donc, l'avertissement, c'est pas, occupe-toi de l'avertissement, c'est occupe-toi de la source du problème que l'avertissement révèle. Là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant. Qui c'est tantôt qui parlait des. Hey, c'est étonnant, j'ai averti le. Vous l'entendez, hein? Hey, là, on l'entend même d'ici en dedans. Là, je vais dire, moi, un maximum, là, c'est les vieux, c'est l'ancêtre du maximum, c'est un affaire qui vibre. Squee, 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 vous l'entendez? C'est un peu étonnant, nous, on l'entendait un matin. Ouais, on va faire un. Hey, je pense que c'est ça qu'on va faire. En plus, un maximum, c'est pas bien cher. Ben, c'est plus l'installer, mais bon.
Écoute, juste une parenthèse, parce que ma vanne a fait beaucoup de bruit, hein?
Ouais.
Puis quand je suis arrivée ce matin, j'avais éteint le moteur, puis j'entendais ça, j'avais pas manqué. Je me disais, mais quand même du bruit. C'est là, j'entends des bourrages. J'ai dit, OK, j'ai dit, c'est la boule qu'il y a là.
Ben, toi, t'étais contente que ça soit
ça.
Ben,
il n'y
a même plus de contact,
mais continue à faire du bruit.
N'importe quoi peut être un sujet de gloire.
Amen.
Reste en perspective.
C'est vrai. Amen. Si on revient à nos moutons, je parlais de nos émotions qui ne sont pas en ligne avec la réalité parce que notre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Mais on a un exemple de ça d'un gars qui était bien découragé. Puis là, on ne va pas lire, ça serait long, mais si on lisait le chapitre de Lamentation, là. Jérémie, là, dans Lamentation, au chapitre 3, là, je veux dire, le gars, là, il est complètement découragé. Il prend des phrases comme « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres. Il tourne contre moi, il retourne sa main tout le jour. Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes... » Vous voyez un peu l'idée, là? Le gars, est... puis là, c'est Jérémie qui parle de Dieu, là. Est-ce que Jérémie avait un assentiment juste de la réalité? Non. Mais c'était ses émotions qui parlaient. Je veux dire, il se sentait tellement intense. C'est comme, là, Dieu, là, tu m'as mis dans le plus profond des bas-fonds, puis je suis plus capable. OK? Il croyait, bon, que tout ça, là, c'était Dieu qui venait de cette misère. Puis, dans le fond, il répondait pas aux prières parce que, même, tu sais, ah, je crie, puis il écoute pas, puis, OK? Mais savez-vous quoi? Il avait le mérite d'amener ça devant Dieu, d'être vrai. Puis, Dieu, là, c'est de même que je me sens. Fait que, même si c'était pas vrai que Dieu, il voulait le rendre misérable, puis tout ça, le signal d'alarme, il l'a compris. Puis ça l'a même mené jusqu'au désespoir. Parce que je vous lis jusqu'où ça l'amène, toujours dans le chapitre 3, mais versets 18 à 20. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand j'ai déjà parlé de ça, quand on n'a plus d'espérance, là, vraiment, là, ça va pas bien. Là, parce que là, mais voyez-vous, là, il ouvre son cœur. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici comment se sentait Jérémie. Mais Dieu, qui est toujours fidèle, bon, compatissant, est le moyen même de nous sortir de ce genre de marasme dans lequel on pourrait être, et c'est ce qui est arrivé. C'était quoi la solution à Jérémie? OK, Jérémie, là, je vais te téléporter, là, puis je vais t'amener là, à Honolulu, sur le port de la plage, puis tout va aller bien. Non? Mais il a parlé au cœur du prophète. Puis voici ce qu'il a dit qui a tout changé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. ce qui me donnera de l'espérance. Il venait de dire qu'il l'avait perdu, mais qu'est-ce qui va me donner de l'espérance? Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc, on peut se demander, qu'est-ce qui a changé dans les circonstances de Jérémie? Rien. Il est encore à Jérusalem, tout dévasté. Là. Ça n'avait pas changé. Puis Dieu non plus n'avait pas changé, en passant. Tu sais, je veux dire, Dieu ne change jamais. Ce qui a changé, c'est la façon que Jérémie pensait. C'est comment il répondait à ce qu'il est en train d'y arriver. Comment il regardait les circonstances à travers de la personne et du caractère de Dieu. C'est qu'au lieu de dire, « Ah, mon ami, les circonstances, c'est la fin, ça va mal », il a dit, « Non, 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 non. Dieu qui est au-dessus des circonstances, il est bon, il est compatissant, puis il est fidèle. » Puis ça, ça nourrissait, ça ranimait son espérance. Et donc, c'est ça la solution. Donc, quand on a ce signal dans l'âme-là, c'est Dieu qui nous appelle à lui. C'est Dieu qui nous appelle à jeter un regard frais sur qui il est et de l'apprécier. Et je vous dirais là-dessus, c'est pas juste faire une espèce d'exercice théologique externe. « OK, Dieu, tu es bon. » Puis non, c'est de prier « Dieu, ouvre-moi les yeux. » Parce qu'on peut dire « Dieu est bon », mais en être saisi, c'est toute une différence. Hey, excusez. C'est comme... Tu sais, quand ça pique, là, c'est dur de gratter.
Est-ce qu'il y a du miel à quelque part?
Oh non, ça va passer. C'est juste que... On va prendre une coupe de gorgée, là. De ma super eau d'argent. Moi aussi, je me suis fait donner de l'argent, Gabriel. Il y a de l'argent là-dedans. De la machin truc d'argent.
L'argent ionisé.
L'argent ionisé. Ça va mieux. OK.
Oui,
hein?
C'est ça qui arrive quand tu donnes une augmentation salaire au passeur, comment ça se met des bouteilles d'argent.
Non, hein, j'ai une soeur qui a eu compassion de moi, merci.
Fais-tu une petite menthe?
Non, non, là, non, c'est vraiment juste que comme, je sais pas trop, là. Il y a comme eu un petit blocage, mais c'est passé.
On appelle ça une picouite.
Ah, j'avais une picouite. Bon, OK, revenons à nos moutons. Donc, les émotions, première chose, c'est les émotions négatives, c'est un avertissement. Mais la deuxième chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que nos émotions négatives peuvent nous aider. On a déjà un peu une idée avec ce qu'on a commencé à toucher, mais je veux aller plus en profondeur là-dessus. Nos émotions négatives peuvent nous aider. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent nos émotions. Des circonstances, même des fois ça peut être physique, hormonal, OK, toutes sortes de choses. Mais en général, on peut les renfermer en deux catégories. OK? Des facteurs qui vont influencer nos émotions. D'abord, quelque chose qui influence beaucoup nos émotions, quand on a des buts de vie erronés, des mauvais buts de la vie. Là, je vous explique. On l'a vu auparavant, hein? Dieu nous a créés dans le jardin, puis en Jésus-Christ, pour être acceptés en sécurité et avoir de la valeur. Hein, vous rappelez-vous, on avait ça en Éden, on a perdu avec la chute, puis Dieu restaure ça en Jésus-Christ, on a déjà vu ça. Le problème, c'est que ce qu'on a développé au fil des temps comme but n'est pas toujours en lien, en harmonie avec ceux de Dieu qui sont en lien avec justement comment il nous a recréés en Jésus-Christ pour retrouver ses besoins fondamentaux. Et là, ça donne lieu à des émotions négatives qui nous aident à voir si c'est le cas. Autrement dit, je suis en train de chercher mon acceptation en dehors qu'en Dieu. Je suis en train de chercher ma sécurité ailleurs, ma valeur. Comprenez-vous? C'est ça l'idée. Puis nos émotions nous aident dans ce sens-là. Vous êtes toujours avec moi, là, Dieu nous a créé avec ça. Ça ne va pas tout le temps de même. Puis nos émotions nous montrent, non, là, tu ne cherches pas la bonne place. Tu cherches la bonne chose, mais à la mauvaise place. Je vais vous donner trois exemples. La colère. La colère révèle un but bloqué. Si vous avez envisagé, mettons, d'avoir une famille chrétienne aimante, harmonieuse et heureuse, est-ce que vous avez envisagé un mauvais but, quelque chose qui n'est pas selon la parole de Dieu? Non, absolument pas. En fait, c'est un excellent but. Mais le problème, c'est que ce but-là peut facilement être bloqué, n'est-ce pas? Par n'importe qui dans la famille, incluant nous-mêmes. N'est-ce pas? Mm. Puis souvent, comment que souvent des gens sont beaucoup en colère? Parce qu'ils ont des objectifs qui sont là. Puis là, tout le monde devient un obstacle à leur bon objectif. Ça, là, c'est vraiment un réel problème qui suscite beaucoup de colère. Le but est bon, mais c'est pas selon la réalité, je veux dire. Puis bon, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps par rapport à toutes les causes de ça. C'est là que c'est important d'être en lien avec les autres, en les voir comme des projets en construction, en devenir, qui ont besoin de la grâce de Dieu, tout comme nous autres. Puis pas juste dire, ah ben là, c'est ça, toi, tu fais des problèmes. Non, oui, on a des problèmes, mais ça fait partie de l'œuvre de Dieu, puisque Dieu fait. Mais comprenez-vous? Donc, l'affaire, là, c'est que on est limité dans l'influence qu'on peut avoir pour contrôler les facteurs en jeu. Tu sais, je veux que tout le monde soit s'entende bien, puis tout ça. On a une petite fenêtre grande de même sur un champ d'influence large de même pour être capable d'avoir cette famille harmonieuse et tout ça. Alors, si je crois qu'atteindre ce noble but est ce qui va me donner de la valeur, hey, nous, on est une bonne famille, on s'aime, puis tout ça. Voyez-vous, je cherche ma valeur là-dedans, dans le fait d'avoir cette bonne famille, ben, je vais être frustré. Puis ma colère est en train de me le dire. Là, tu te mets en colère parce que ton but est bloqué. Parce qu'il n'est pas réaliste. Il ne tient pas compte de tout. Il ne tient pas compte du péché, il ne tient pas compte du besoin de la grâce, il ne tient pas compte de plein d'affaires. Puis là, mais c'est ce qui va arriver, ben, on va être dévasté à chaque fois que quelqu'un en famille ou nous-mêmes ne vit pas à la hauteur de ce but-là qu'on veut atteindre. Mais beaucoup de gens vivent de même découragés. Deuxième exemple, l'anxiété révèle un but incertain à atteindre. Un but bloqué, ici un but incertain. C'est-à-dire, vous espérez que quelque chose va se passer, mais ce n'est pas garanti que ça va se passer, que ça va être le cas. Vous pouvez contrôler certaines choses, mais vous n'êtes pas capable de tout contrôler. Et l'erreur là-dedans, c'est que vous croyez que votre sécurité dépend de ça. Par exemple, notre situation financière. C'est-à-dire, on est capable de travailler, on est capable d'économiser, d'être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Mais si ça devient le but de ma vie, je vais devenir très anxieux. Pourquoi? Parce que je ne peux jamais être certain. Va-t-il en avoir assez? Va-t-il arriver quelque chose? Il va-t-il avoir des dépenses imprévues? Il va-t-il avoir des pertes non planifiées? Je veux dire, c'est incertain. Puis si je veux trouver ma sécurité là-dedans, là je parle de la question de l'argent, ça peut être d'autres choses, ça peut être relationnellement, mais si je veux trouver ma sécurité là-dedans, je ne serai jamais certain, je vais être anxieux. Alors regardez, quand quelqu'un qui a un problème d'anxiété, c'est qu'il y a plein de points de réaction partout où il regarde. Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Puis, OK? C'est ce qui génère l'anxiété, c'est un but qui peut être bon, mais qui est incertain. Alors, on n'est pas certain de l'atteindre. OK? L'exemple numéro 3, donc la colère, un but bloqué, l'anxiété, un but incertain, la dépression, un but impossible à atteindre. Quand on arrive au point où est-ce que le but qu'on s'était fixé et on dit « ça va jamais arriver », ça vous est déjà arrivé? Ah, il n'y a rien à faire avec ça, ça ne pourra jamais se passer. Là, on est déprimé. Là, on a le goût de jeter la serviette, puis, OK? Puis bien que, OK, avec la dépression, vous comprenez, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des facteurs là aussi, physiques, hormonaux, puis tout ça, là. Mais la grande majorité du temps, tu sais, puis ces choses-là rentrent en ligne de compte, mais le facteur majeur et déterminant, c'est un sentiment de désespoir et d'incapacité face à un but, encore là, qui peut être très noble et bon, qu'on s'est donné, puis il a dit, ça ne peut jamais arriver. Mais si ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas à être dans le désespoir ou l'incapacité, peu importe la circonstance, parce que Dieu est avec vous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais, si quelqu'un veut être accepté, on a parlé de valeur, on a parlé de sécurité, mais si on cherche notre acceptation d'être aimé par tous et chacun, ben, on vient de s'enrôler pour la dépression. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça se peut pas que tout le monde nous aime. Dans le monde dans lequel on est, là, c'est impossible. Fait qu'on a un but impossible, fait qu'on va être déprimé. Parce que, ah, ben là, c'est ça, personne. Puis là, on va finir par décourager personne même. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui t'aiment pas, c'est vrai. Puis il y en a que c'est la misère, mais bon. Fait que l'émotion de dépression nous donne un signal. T'as un but qui est impossible. Voyez-vous comment la colère nous donne un signal d'un but bloqué. L'anxiété nous donne un signal d'un but qui est incertain. Puis ici, la dépression nous donne un signal d'un but impossible. Et alors, voyons, on peut se poser la question. Mais comment je fais pour avoir des buts qui sont en harmonie avec ceux de Dieu? La parole de Dieu. Je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole nous dirige dans toute la vérité. Parce que les buts de Dieu ne peuvent pas être bloqués, ne sont pas incertains, ne sont pas impossibles non plus. Ils sont réalistes. Et ils tiennent compte de tous les facteurs. Fait qu'on pourra prendre tous les exemples qu'on a donnés. Par rapport à une famille, je ne peux pas avoir une famille harmonieuse tout le temps, parfaite, mais je peux avoir une famille qui grandit dans la grâce de Dieu puis qui apprend à connaître Dieu à travers ses adversités. Ah, ça, ça se peut. Avec mon argent, je ne peux pas tout savoir, tout ça, mais sais-tu quoi? Je peux avoir la confiance que Dieu va pourvoir à tous mes besoins avec grâce selon sa richesse en Jésus-Christ. Ça, ça se peut. Puis que ça grave, puis je peux apprendre à être content dans l'état dans lequel je suis. Puis avec l'autre exemple de vouloir accepter que tout le monde m'aime. OK, c'est vrai, peut-être que tout le monde ne va pas m'aimer, mais c'est quoi? Je peux avoir des gens que j'ai des relations significatives où est-ce qu'il y a une acceptation mutuelle, puis un amour, puis... Comprenez-vous? C'est des mêmes choses, mais sont mises selon la perspective du Seigneur, puis selon l'œuvre de Christ à travers ça. Donc ça, c'est le premier point que je voulais toucher, bien, sous-point, parce qu'on est dans l'idée que nos émotions négatives peuvent nous aider. Donc, les buts de la vie, mais aussi, il n'y a pas juste les buts de la vie là, qui peuvent nous aider à comprendre toute la dynamique de nos émotions, mais aussi découvrir les mensonges que les expériences passées nous ont poussés à croire. Ah, oh, ça, c'est gros. Des fois, on a vécu des traumatismes. C'est quoi, il y a beaucoup de gens, là, puis je dirais, okay, on a tous vécu des traumatismes. Puis ça n'a pas besoin là, d'avoir, mettons, perdu quelqu'un, là, de l'avoir vu mourir devant nos yeux ou quelque chose. C'est... Traumatisme, c'est quelque chose qui a laissé une marque profonde sur nos cœurs. Des fois, on était petit, puis c'est une affaire que ça peut paraître anodin à quelqu'un, mais ça l'a marqué nos cœurs pour le reste de notre vie. OK? Fait que tous, on a vécu des expériences traumatiques, des choses difficiles, certains, bon, plus dures que d'autres. Mais au moment où on l'a vécu, ça l'a affecté notre façon de penser. Et ainsi, ça nous a poussé à croire certaines choses par rapport à Dieu et par rapport à nous-mêmes. Ça nous a façonné. Et on s'est mis à croire avec cette expérience-là des choses. Et le problème, ce n'est pas toujours selon la parole de Dieu. Par exemple, des gens qui ont vécu de l'intimidation, qui m'ont dit que j'étais bon à rien. Ben, je peux finir par dire, ben, finalement, ça doit être vrai. Si tout le monde me dit que j'étais bon à rien, je dois être bon à rien. Je finis par croire. OK? Les croyances, c'est ce qu'on croit dans notre cœur, qui résulte là, de ces expériences traumatiques, peuvent devenir des forteresses. Ça va devenir mon identité. Ben, c'est ça, moi, je suis un bon à rien. Ou moi, je suis quelqu'un d'amère. Moi, je suis pas capable de pardonner. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal, puis on est pas capable de pardonner, puis on dit, ben non, moi je suis le même. Comprenez-vous? Ça devient notre identité. Puis on croit à ça. C'est une forteresse. C'est incrusté profondément. Puis là, on en devient esclave. On devient esclave de notre pensée comme un boulet qu'on tire à notre pied. À cause, non de l'expérience, mais à cause de ce qu'on croit en résultat de l'expérience. Tu peux prendre deux personnes qui ont vécu la même affaire. Un qui va croire que c'est ça qui va le définir, puis c'est ça sa vie. Puis l'autre, à cause de la parole de Dieu, puis de la vérité qui est en Christ, va être libéré de ça. Même expérience, réponse différente. C'est vraiment l'importance de la à quoi j'ajoute la foi. À ce que moi je pense, le monde ou tout ça, le diable ou ce que Dieu dit. Et vous savez, un enfant de Dieu, et ça c'est tellement important, on va revenir là-dessus à la fin du message, mais un enfant de Dieu n'est pas foncièrement le produit de son passé, mais de l'œuvre de Christ. On est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est pas pour dire que Dieu dit « Ah, ben là, reviens-en, là, c'est passé. » Non, non, mais c'est plus ce qu'il définit, par exemple. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, il faut que ça devienne notre identité. Puis, comme j'ai dit, c'est pas que Dieu se fiche de notre passé puis que c'est pas important, mais c'est pas ça qui nous définit, puis c'est pas non plus ça sur quoi on reste fixé. Et c'est là le défi. Mais c'est pas comme si Dieu nous laisse dans le désert, il nous a donné Christ, puis il nous a donné une nouvelle identité, il nous a donné tout pleinement en lui. Donc, OK, on peut pas changer notre passé, mais on peut en être libéré. On peut pas le changer, mais on peut en être libéré. C'est ça l'essence de l'Évangile. C'est ça la mission de Jésus. Écoutez ce que Jésus est venu faire. Lui-même le dit, là, puis il cite Ésaïe, dans Luc 4, 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, à cause de toutes les affaires qu'ils ont pu vivre. Pour proclamer aux captifs la délivrance, parce qu'ils sont esclaves de toutes les affaires qu'ils peuvent croire. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, qui voient la vérité qui libère. » Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est la solution aux plus profondes blessures de nos cœurs. Et il n'est pas juste. C'est pas comme s'il nous disait juste une façon d'endurer les effets du passé, mais il nous montre comment résoudre complètement. Comment ça peut nous... Jésus ne fait pas juste dire, « Ah, ben tiens, je te donne la pilule pour endurer, prends ça aux 3 heures. » Non, il dit, « Je te donne un cœur nouveau. » Il dit, « Je te refais au complet. » Ça, c'est la grâce. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, ça exige du temps et de la patience. Tantôt, vous avez mangé un repas, là. Avez-vous tout avalé d'un coup en une bouchée? Ben, Seigneur, met devant nous le repas de sa grâce puis de sa restauration. Il faut y aller bouchée par bouchée, là. Tu sais, Dieu nous a constitué le même physiquement, c'est aussi le même dans le domaine spirituel. T'sais, on ne peut pas tout changer de jour. Il faut être patient les uns envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Des fois, on pense, hey, mais comment ça, je n'ai pas changé encore, je suis donc bien charnel, tout ça. Sois pas si méchant envers toi. Des fois, les personnes avec qui on est les plus durs, c'est nous-mêmes. Puis là, je suis en train de dire, oh, on doit s'aimer nous-mêmes, puis tu sais, comme le monde va dire, mais dans les milieux chrétiens, il y a beaucoup d'haine dirigée souvent entre nous-mêmes. Ah, je suis donc bien un chrétien pourri, je suis encore tombé dans ce péché-là, je fais donc bien Dieu. Puis là, on fait écho à ce que Satan lui-même n'a même plus besoin de nous dire. L'accusateur des frères est rendu nous autres. Puis beaucoup ont tellement de honte avec ça, ils n'osent pas en parler. Parce que c'est un sujet tabou. Mais non, les chrétiens, nous, on a de l'abnégation et tout. Non, mais c'est pas spirituel de se détester, là. Puis de dire, je suis donc bien pourri. Parce que c'est pas spirituel, parce que c'est pas selon la parole de Dieu. Si Christ m'a libéré, si Christ m'aime, je suis dans son amour, pourquoi je me détesterais? Il y a une dissonance énorme entre les deux. Là. Food for thought. Troisième chose importante. C'est le dimanche après-midi, puis c'était un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. On achève. Les dangers et les solutions face aux mauvaises émotions. Je veux toucher à ça brièvement. On a parlé d'une zone d'émotions négatives sont des signaux d'avertissement et peuvent nous aider. Maintenant, juste pour conclure, les dangers et les solutions. On a vu que les émotions fortes, bon, la colère, l'anxiété, puis tout ça, c'est des choses qui viennent nous prendre, tout ça. Mais vous avez quoi spécifiquement avec, par exemple, l'amertume puis la colère? Ça nous dit que ça peut donner de l'accès à Satan. Ça dit que si on se met en colère, de ne pas se coucher sur notre colère pour ne pas donner accès à Satan et donner du terrain. Puis la même chose aussi, ça dit, si j'ai à pardonner, je pardonne devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Quand que je laisse ces choses me contrôler, je donne du terrain à l'ennemi dans ma vie. Puis c'est là qu'il construit des forteresses. Il y a un danger face à l'ennemi de notre âme. Mais en même temps, il y a toujours la solution. Vous savez, on parle des fois de Satan qui est un lion rugissant, puis tout ça. Pis, mais le verset juste avant, ça dit « Déchargez-vous sur lui, sur Christ, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Si je peux aller à Dieu puis me décharger, puis être libéré du fardeau des choses qui peuvent peser sur mon âme, j'enlève l'emprise que Satan peut avoir sur moi. Puis là, je peux vivre ce verset. Je me suis soumis à Dieu en allant vers lui comme ça, en croyant à sa restauration, à son acceptation. Puis là, je suis capable de résister au diable. Sinon, là, avec mes émotions, le diable arrive, puis je vais lui donner raison. Je dis, ben, t'as bien trop raison. Je suis de même. Puis il a raison, le diable, quand il dit ça, il a raison avec les choses considérées en dehors de Jésus-Christ. Mais quand il nous dit, t'es de même, t'es de même, t'es de même, c'est faux dans le sens que c'est plus ça qu'on est. Ah, t'es quelqu'un d'amère, toi, t'es tout le temps de même, ça remonte jusqu'à ton arrière-grand-mère, puis. Mais c'est probablement vrai. Mais c'est plus vrai en Jésus-Christ, ça a été brisé. C'est plus mon identité. OK, l'amertume d'une réalité dans ma vie avec laquelle je peux lutter, avoir de la misère à pardonner, mais c'est plus ce que je suis, puis c'est plus comment Dieu me voit puis qu'il me traite. Voyez-vous comment ce qu'on croit, puis ce qu'on acquiesce, ce qu'on accepte comme étant vrai, ça va changer tout le reste. Et donc, les émotions dont on parle aujourd'hui. Donc, ça, c'est les dangers, OK, de pas se laisser, de pas laisser de terrain à Satan, tout ça, pour qu'il prenne là-dessus. Je veux terminer avec juste, sur une note positive, trois là, vérités importantes là, pour notre santé émotionnelle. Ça vous tente de finir avec ça? Vous avez encore un peu de jus pour écouter? D'abord, savoir ce que je suis en Jésus-Christ. Puis là, je dirais savoir, mais aussi connaître, en être régénéré dans le renouvellement de notre intelligence. Si on connaît dans notre cœur, tu sais, pas juste dans notre tête, l'identité qu'on a en Jésus-Christ. J'ai pas besoin de rechercher mon acceptation, ma sécurité, puis mes valeurs dans toutes sortes de choses de cette vie ou des buts que je me serais donné. Je les ai déjà. Toute l'acceptation dont j'ai besoin, toute la valeur que je peux avoir et toute la sécurité, je l'ai déjà. C'est ça que j'ai en Christ. C'est ça qu'il faut connaître, savoir ce que je suis en Jésus-Christ. Je suis aimé, je suis accepté, je suis sécure. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Je vais donner une feuille où est-ce que ça donne une liste avec plein de versets. C'est pas juste un petit verset pris hors contexte là-bas. Mais non, pour chaque point, il y a plein de versets. C'est ce que je suis en Jésus-Christ. Ceux qui ne l'ont pas, je lis ici. David puis Chloé, si ça vous intéresse. Je vais en donner un autre tantôt, mais en tout cas, j'ai un autre feuille que je vais donner aujourd'hui, mais... c'est quoi que je disais, non? Pour ceux, on a parlé tantôt d'expériences traumatiques du passé. Si on a vécu des expériences traumatiques, on peut apprendre à réévaluer ces expériences à la lumière de ce qu'on est maintenant en Jésus-Christ. Parce que, OK, j'ai peut-être été abusé, je me suis fait mentir, OK, tout ça. Mais la vérité, c'est que je suis un enfant de Dieu complet, pur, parce que certains se sentent souillés de par ce qu'ils ont vécu dans le passé. Mais la vérité, on est complet, pur, saint, avec un potentiel illimité pour le Seigneur. Puis pas parce que, oh non, je suis bon. Puis non, parce que je puis tout par Christ qui me fortifie, parce que Christ est ma vie. Je veux dire, si je vis, là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi la limite à ça? C'est la vie de Christ, c'est lui qui va se manifester à travers le vase de terre que je suis. Et donc, ça va m'aider à répondre à des pensées du genre, je me sens sale avec tout ce que j'ai vécu. OK, c'est vrai peut-être, mais ça ne change pas ce que tu es maintenant. T'as beau te sentir de telle façon, mais t'es un enfant de Dieu, purifié par le sang de Christ, et c'est maintenant ta nouvelle identité. Et plus on va comprendre et croire ces vérités, et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal en passant par rapport à ces expériences traumatiques, plus on va grandir dans notre liberté en Jésus-Christ. Puis ces émotions qui nous assaillent, plus ça va. Plus on se l'approprie, plus on va en être libéré. Cette colère qu'on pourrait avoir, cette amertume, cette anxiété, Dieu va nous en libérer seulement en se rendant compte de ce qu'on est en Christ. Aussi, il faut être honnête. Rappelez-vous, j'ai fait un message sur les psaumes imprécatoires. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des bouts, des fois dans la Bible, c'est gênant à lire? Que tu dis, une chance que ma belle-mère n'était pas là pour entendre ça, ma belle-mère non sauvée. Tu sais, il y a des bouts, là, tu sais, c'est graphique des fois, puis des fois, c'est par rapport à des choses que, tu sais, hey, j'aurais pas dit ça de même. Mais les psaumes imprécatoires, là, c'est wow, tu sais. Mais c'est quoi que ça dit? Vous êtes-vous déjà demandé comment ça qu'il priait comme ça? Es-tu correct? Je vous rappelle que les prières imprécatoires puis les psaumes, là, c'est tout inspiré de Dieu. Là. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas comme, ah non, ça devrait pas vraiment aller là. Puis... Mais l'idée, c'est que la personne est honnête. C'est une personne qui dit comment qu'elle se sent par rapport à ce qui arrive. Parce que de toute façon, Dieu le sait déjà. La personne est juste honnête. Donc, soyons honnêtes par rapport à comment ça nous fait sentir. Là, on dirait, je peux pas dire à Dieu que j'ai un goût. Pète les dents, comme dirait le frère de. Non, mais c'est vrai, en tout cas. Connaissez-vous, tu sais, que ça dit qu'il mange des cailloux puis que ça soit du gravier, là. Mais la traduction de Maxime Tessier, là, c'est pète les dents, Seigneur! Mais là, on dirait, je peux pas prier ça. Mais si tu te sens de même puis que ça te met en colère, puis là, je suis pas en train de dire. On n'est pas dans la psychologie, puis là, de dire, là, faire. Mais sois juste honnête. Ça te choque tellement, là. Sois honnête devant Dieu. Reste pas là, puis tu sais, agis pas selon, on ne va pas y péter les dents, là. Mais l'idée, c'est l'honnêteté. Soyons honnêtes comment qu'on se sent. Dis, ah, mais on n'a pas le droit de se sentir de même. Ben, c'est de même que je me sens. C'est pas une excuse. Oh, ben, regarde, je me sens de même, puis lâchez-moi tranquille. Mais honnêtement, c'est là, c'est comme ça que je me. C'est quoi? Dieu m'aime pas moins, parce que je suis honnête. Des fois, on pense que si je suis vrai avec Dieu, Dieu, il va me mettre dans le coin, là, pour un bout de temps. Non, soyons vrais. Puis l'honnêteté aussi, ça apparaît avec Dieu, puis dans notre relation avec Dieu, avec les autres. En fait, la personne avec qui on devrait être le plus honnête, c'est avec Dieu, et ça va se refléter dans les relations avec les autres. Et souvent, Dieu utilise des circonstances de notre vie qui font sortir le pas beau, mais qui font sortir le vrai. Dis, ouais, tu pensais que c'était réglé cette affaire-là, t'as-tu vu comment ça te met en colère? Oups! C'est vrai, Seigneur, mais ça me met en colère, je me surprends. N'oubliez pas, c'est un avertissement, puis c'est un moyen qui peut nous aider à aller à la source. C'est le check engine qui allume bien gros, qui flash dans le tableau de bord. Et donc, Dieu veut nous aider à régler ça en allant à lui. Donc, c'est pas une fin, c'est un moyen vers Dieu. Et une dernière chose, pour nous aider dans notre santé émotionnelle, engagez-vous à croire la vérité. Et là, là-dessus, j'ai besoin de deux personnes pour distribuer ceci. Ça va vous aider, vous allez voir. Dieu, mon Père. Hein, papa et fiston, merci les gars. Je pense que tout le monde peut en avoir une, on en a assez. Ce que je veux faire simplement pour conclure le message, c'est juste le lire avec vous autres. Ça va être ça ma conclusion, puis après ça, je vais prier. Mais là, vu qu'on est dans le temps qu'on le passe, puis là, si je dis quelque chose, les gens ne vont pas tout nécessairement écouter si attentivement, mais je vous encourage à lire et relire ces vérités jusqu'à ce que votre compréhension erronée de Dieu soit changée par la parole et l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, là, ça. C'est, on dit en anglais, self-explanatory. Ça s'explique de soi-même. OK. Ah, puis peux-tu donner ça à David et Chloé? Parce que j'avais donné ça avant. Puis... OK. Dieu, mon Père. Puis là, écoutez, c'est tout le temps la même formule, là. Je renonce au mensonge sur lequel toi, Dieu mon Père, tu es distant et ne t'intéresse pas à moi. C'est-tu déjà arrivé à quelqu'un qui pensait ça? Hey, Dieu, coudon. Moi, ça m'est arrivé plus que je voudrais l'admettre, là. Mais c'est un mensonge. Et je choisis de croire à la vérité que toi, Dieu mon Père, tu es toujours personnellement présent avec moi, que tu as des projets pour me donner une espérance et un avenir, que tu as préparé à l'avance des œuvres spécialement pour moi. Puis là, il y a les références avec ça. Pour sauver du temps, là, je vais juste y aller par rapport au fait, OK, genre, je renonce au mensonge que Dieu est insensible, qu'il ne me connaît pas, qu'il ne se soucie pas de moi, puis je choisis de croire qu'il est bon et compatissant et qu'il connaît toutes choses à mon sujet. Je renonce à croire que Dieu est sévère, qu'il a des attentes irréalistes envers moi, et je choisis de croire que je suis accepté, que Dieu m'accepte et qu'il me soutient avec joie. Puis il y a toutes les références qui sont là. C'est vraiment une feuille pour la méditation, mais je m'en sers comme conclusion. Je renonce au mensonge que Dieu est passif et froid à mon égard. Et je choisis de croire qu'il est chaleureux et affectueux envers moi. Et il y a les références qui sont là aussi. Je renonce à croire que Dieu est absent et trop occupé pour moi. et je choisis de croire qu'il est toujours présent, désireux d'être avec moi. Avez-vous déjà pensé à ça? Dieu qui nous invite lui-même à lui. Il dit, venez. Il est désireux d'être avec nous et de me permettre d'être tout ce pourquoi il m'a créé. Je renonce au mensonge qui est impatient et en colère avec moi. Ah, moi, j'ai tellement eu longtemps cette vision-là de ma vie. Là. Dieu est un espèce de Dieu qui me regarde. Ha! Là, il m'a pogné. Là. Non, mais c'est vrai. Puis ça ne portait pas du bon fruit. Puis que Dieu m'a rejeté. Alors, je choisis de croire que Dieu est patient. Et là, en colère, Dieu ne va pas excuser le péché, mais il est patient, il est lent à la colère. Et lorsqu'il me discipline, c'est une preuve d'amour et non de rejet. Donc même quand je pêche, puis j'aime tellement le cantique, quand je pêche, quand je fuis, tu me poursuis. Avec discipline, puis avec, mais c'est ça. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu est méchant, cruel et abusif envers moi. Je choisis de croire que Satan, c'est lui qui est méchant, cruel et abusif, mais que Dieu, mon Père, est aimant, doux et protecteur. Satan est bon pour mettre sur le dos de Dieu ce que lui-même est envers nous autres. Je renonce au mensonge selon lequel toi, Dieu, mon Père, tu me prives des plaisirs de la vie. Tout le monde a du fun, puis moi, depuis que je suis chrétien, je suis tout poigné. La face longue à terre. Je choisis de croire la vérité. Que toi, Dieu mon Père, tu es l'auteur de la vie et tu me conduis dans l'amour, la joie et la paix lorsque je choisis d'être rempli de ton esprit. La vraie joie, c'est vraiment quand on est chrétien. Puis ceux qui ont connu, c'est quoi le monde? Les joies vaines du monde? Ça se compare même pas. Je renonce au mensonge selon lequel toi, Dieu mon Père, tu essaies de me contrôler, de me manipuler. Je décide de croire à la vérité que toi, Dieu mon Père, tu m'as libéré. Tu me permets de faire des choix et tu me fais grandir dans ta grâce. Je renonce au mensonge selon lequel toi, Dieu mon Père, tu m'as condamné, ne me pardonne plus. Alors, on doit décider de croire qu'on est pardonné de nos péchés et que Dieu, tu ne les utiliseras jamais contre moi à l'avenir. Dieu ne va pas nous ramener nos péchés, sont pardonnés. Je renonce finalement au mensonge selon lequel toi, Dieu mon Père, tu me rejettes lorsque je ne parviens pas à mener une vie parfaite ou sans péché. Ça aussi n'a peut-être qu'un été sous le joug de la performance. Je choisis de croire la vérité que toi, Dieu mon Père, tu es patient envers moi et que tu me purifies quand j'échoue. Amen. Et écoutez le beau verset à la fin. Je suis la prunelle de tes yeux. Ça vient de Deutéronome, chapitre 32. Ça vient du matériel Freedom in Christ. Merci Estelle qui nous a traduit ça. Merci Seigneur pour ta parole et ta bonté, la vérité Seigneur qui nous affranchit et qui touche à tous les domaines de notre être. Corps, âme et esprit, émotion, volonté, intelligence. Merci Seigneur, tu es le Dieu qui restaure complètement, de fond en comble. Béni sois-tu Seigneur, on te loue, on te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen.